membre du mouvement éducateur oriental. J'ai réduit totalement ce qui se
passe. Pour participer au Katanga, je pense qu'on peut, en combinant les deux, du président, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, c'est un espace d'échange et de partage entre tous les Congolais sans distinction, où qu'ils soient sur la planète Terre. Et jeudi 28 janvier 2010, vous avez la parole pour vous exprimer sur la prorogation du mandat de la mission des Nations Unies en RDC, MONUC en sigle. Comme vous le savez, jour pour jour, au mois de novembre dernier, la MONUC a totalisé 10 ans de présence sur le sol congolais. Dans sa résolution 1906 du 23 décembre dernier, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la MONUC de 5 mois, soit jusqu'au 31 mai prochain, avec l'intention de le prolonger alors de 12 mois. Cette résolution indique que la MONUC, agissant en étroite collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, aura pour mandat, dans l'ordre des priorités, assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et du personnel et des installations des Nations Unies. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau mandat de la MONUC? Vos questions, points de vue, réactions et propositions sont les bienvenues. Nous recevons dans ce studio le colonel Jean-Paul Dutrich, porte-parole militaire de la MONUC. Bonjour, colonel.
Oui, bonjour.
Pierrot et la Mégie à la présentation, Arlette Mbouya à la réalisation. Cette émission est mise en onde par Dieudonné Nyangasa dans une supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue dans votre émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Fidèles auditeurs, comme je venais de le dire au début, à l'introduction de cette émission, nous parlons aujourd'hui de la prorogation du mandat de la MONUC, qui est prorogé bien sûr de 3 mois, de 5 mois, jusqu'au mois de mai, à la fin du mois de mai prochain. Cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 23 décembre 2009, avec pour particularité la protection des civils. Comme je le disais, vos points de vue, réactions, questions et contributions sur ces sujets et la lecture que vous en faites sont les bienvenus dans cette émission. Colonel Jean-Paul Dutrich, vous êtes porte-parole de la MONUC. Pourriez-vous avoir en grande ligne ce qui constitue cette résolution 1906 adoptée par le Conseil de sécurité sur la prorogation du mandat de la MONUC pour 5 mois?
Bon, comme vous l'avez dit, je suis plutôt porte-parole militaire, donc j'aimerais plutôt me concentrer sur ces questions-là. Le Conseil de sécurité demande à la force de la MONUC de continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, notamment dans les opérations, maintenant opération Amalileo, pour effectivement chasser les éléments du groupe résiduel étranger et aussi pour forcer les groupes armés congolaises à se soumettre au processus de désarmement, soit à leur réintégration dans l'armée ou le retour dans la vie civile.
Mais en ce qui concerne la protection des civils, quelles sont les particularités pour la protection des civils? Parce qu'on revoit dans la résolution 1856 aussi, je pense bien, il y a le problème de la protection des civils est revenu et ça revient encore. Quelle est cette fois-ci la particularité que les troupes de la MONUC ont en ce qui concerne la protection des civils?
Bon, déjà, on peut parler du travail quotidien de la force de la MONUC. Et là, on peut distinguer en fait entre deux possibilités de protéger. Donc, il y a une approche plutôt passive, comme je pourrais le qualifier. Ça veut dire avec nos bases qui sont déployées dans des zones très vulnérables, entre autres tout près des camps de déplacés, avec nos patrouilles, par exemple pendant les journées de marché, pendant la présence devant les églises. On dit que c'est une présence ou bien une protection dissuasive. Et si on veut parler plutôt d'une protection active, agressive, là on parle de la protection à travers les opérations militaires comme à Manileo, au nord et au sud Kivu.
Et colonel Jean-Paul Détrich, vous parlez de la protection de la vie hein, et aussi des opérations militaires. On sait que la MONUC, elle vient en appui au FARTC. Mais cette fois, quand on dit que la MONUC protège les civils, s'ils sont pris entre le fait des combats, c'est la MONUC qui va maintenant au devant de la scène pour protéger ces civils, ou comment la MONUC va agir par rapport à l'appui, n'est-ce pas, au FARTC?
Bon, on peut dire que l'opération à Manileo a les mêmes priorités que Kimia 2. Cependant, quelques faiblesses qu'on a quand même constatées, ça veut dire l'impact humanitaire était quand même assez dramatique à cause de Kimia 2. Donc, cette faiblesse doit être adressée. Ça veut dire, déjà quand on planifie les opérations, on va tout mettre que, effectivement, la protection des populations dans les zones d'opération est prise en compte avec la plus grande priorité. Ça, cela veut dire que le processus de planification de Manileo a déjà longtemps commencé. Je constate aussi que peut-être des médias et d'autres personnes sont un peu impatients quand du début de la phase plus opérationnelle, comme je disais hier, plus chaude des opérations, mais sans une excellente planification entre la force de la MONUC et les troupes impliquées, surtout les bataillons d'intervention, on ne pourra pas arriver effectivement à encore mieux protéger les populations dans les zones d'opération.
C'est-à-dire qu'il y a par exemple les populations qui se retrouvent dans les camps de déplacés et les populations qui sont dans les villages qui ne sont pas concernées directement par les opérations. Cela veut dire que la priorité d'abord c'est pour les populations qui sont concernées directement par les opérations et ceux qui se retrouvent aussi dans les camps des déplacés par exemple.
Oui, effectivement. Donc, je crois que la protection des camps des déplacés est en général assez bonne parce que nous avons beaucoup de bases autour de ces camps. Il y a eu quelques incidents dans un des camps récemment, mais là, la justice militaire congolaise elle a pris action et on a eu une très bonne coopération avec les autorités militaires de la 8e région à Goma. Parce que là, quelques militaires sont entrés d'une façon illégale. Et en ce qui concerne les opérations, bon, il y a des éléments donc actifs sur le terrain, les forces opérationnelles, mais il y a aussi d'autres troupes qui seront engagées pour protéger les populations dans les zones déjà libérées des FDLR. Donc, il faut aussi dire que c'est un autre élément très important de l'opération à Manileo. D'abord, nettoyer les poches résiduelles qui restent encore, parce que malgré le succès militaire, ce qui met à Dieu, il reste quelques petites poches au nord Kivu ainsi qu'au sud Kivu qui restent donc sous contrôle des FDLR. Les opérations visent surtout ces poches. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les zones maintenant sous contrôle de l'État doivent être maintenues. Ça veut dire qu'il faut tout éviter, il faut tout faire pour éviter que les FDLR
puissent récupérer.
Donc cela est une tâche très difficile parce que, comme vous le savez, les FDLR connaissent bien le terrain. Le terrain est très vaste, les moyens militaires sont réduits. Ceci dit, donc, il faut absolument la coopération avec la population. Et donc, c'est tout un processus. Si les populations ont confiance aux FRDC, ils vont informer les FRDC sur des événements ou bien sûr des mouvements des FDLR qui sont toujours là. Mais si la population a toujours peur des FRDC, ce sera donc un peu difficile. Donc, notre idée, c'est aussi l'idée des forces armées de la République démocratique du Congo, de créer la confiance entre la population et les forces armées.
Merci. On a aussi quelques auditeurs qui sont en ligne, comme Étienne qui est à Bukavu, John qui nous appelle de Kananga et Prince qui nous appelle d'Ovira. Nous allons aussi les prendre tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Étienne, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Kati, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Étienne, nous parlons de la prorogation du mandat de la MONUC axée sur la protection des civils. Vous avez suivi le porte-parole militaire de la MONUC qui a brossé comment les opérations se passent sur terrain et les priorités qui sont données par rapport à la protection des civils et surtout en ce qui concerne l'opération à Manileo pour, bien sûr, n'est-ce pas, qui vise à vider les poches des résistances des FDLR pour le rétablissement de la paix. Quelle est votre préoccupation, votre contribution à ce niveau du débat, Étienne, vous qui êtes avocat, vous, dans la province du Sud Kivu?
Oui, ma première préoccupation, je voudrais dire à l'invité qui participe à l'émission avec vous et les auditeurs de Radio Kapi que le Congolais de l'Est et peut-être le, tous les Congolais de cette République ont toujours fistigé que ce n'est pas par opération militaire que les FDLR devraient rentrer chez eux. C'est pourquoi nous avions toujours dit que tous, chaque jour et chaque nuit, si la communauté internationale, à travers la Monique, ne veut pas organiser le dialogue entre les Rwandais, le dialogue entre les Ougandais, et tous ces groupes armés qui se sont infiltrés au Congo pour déstabiliser la paix des Congolais, nous continuons toujours à considérer que la présence de cette Monique, les prolongations en prolongation est toujours nulle. C'est la première préoccupation.
Et pour la deuxième, pour terminer?
Oui, la deuxième, je voudrais demander, on a commencé à constater qu'il y a des mots de passe, il y a des consignes de coopération entre les autorités, peut-être congolaises et certaines de la communauté internationale qui complète, qui complicite le manque de paix en RDC, puisqu'on ne comprend pas pourquoi chaque fois quand le mandat de la Monique est envers sa fin, il y a trouble des groupes armés qui avaient déjà cessé. Cette question, je l'adresse à votre invité.
Merci beaucoup.
C'est le cas des opérations. C'est le cas des problèmes qui se sont encore soulevés à l'Équateur la fois passée. Et s'il y a un calme précaire aujourd'hui au site Kivu, ce n'est pas à dire que les FDLR sont ici. Merci, je vous remercie.
Merci beaucoup, Etienne, pour vos deux préoccupations. La première, c'est une proposition, bien sûr, en ce qui concerne la résolution de la crise. Vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des dialogues internes, soit en Ouganda, soit au Rwanda. Et vous avez demandé à notre invité pourquoi chaque fois quand il y a quand on arrive à l'échéance du mandat de la MONUC, on a tendance à voir des troubles qui se créent encore dans les zones et les conflits arrivent. Il aura le temps de vous répondre. Merci beaucoup, Étienne, de nous avoir appelé de Bukavu. Attends, c'est John qui nous appelle. John, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, John.
Oui. À l'âme de ce mandat, il consiste de renouvellement à but lucratif. Car ce n'est pas la première fois que la MONUC le fait. Que les Congolais sachent qu'un État ou une nation en conflit avec d'autres ne peut donner la paix à autrui. Nous dirons que c'est une politique du sommeil qu'on est en train de jouer. J'ai suivi hier dans le conseil hebdomadaire de la Monique, la population qui avait manifesté contre la Monique. Donc c'est ce qui montre combien l'Est est en insécurité. On va vous parler du réchauffement des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Donc, en conclusion, je dirais que les autorités congolaises et la Monique sont à la base des souffrances à l'est du pays. Et je pose la question à votre invité. Est-ce que c'est dans ces 5 mois que nous aurons la paix à l'est du pays? C'est ça ma préoccupation.
Merci, John. Vous demandez à l'invité pour savoir si les 5 mois suffisent vraiment pour régler tous les problèmes de l'est et qu'on ait la paix.
Exactement. Est-ce que c'est dans ces 5 mois que nous aurons la paix concrète à l'est du pays?
Merci beaucoup, Prince. On vous appelait d'Ouvira. Bonjour. Allô, Prince, vous êtes en ligne?
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, Prince. Vous avez suivi Étienne, vous avez suivi John de Kananga et leurs propositions. Quelles sont vos préoccupations et vos propositions par rapport au nouveau mandat de la MONUC qui va expirer au 30 mai prochain, au 31 mai prochain?
Merci beaucoup, Pierrot. Au fait, nous, ici, à Ouvira, nous avons été très accueillis avec cette prorogation du mandat de la MONUC. Ce que nous pensons, nous estimons que la protection des civils appartient aux nationaux, donc l'armée congolaise. Ça, ce que je suis en train de constater, c'est que la souveraineté congolaise est en train d'en partir. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'histoire de notre pays, Pierrot. Ce que, si vous vous rappelez, lorsque le gouvernement de l'époque coloniale a été investi, la Belgique a passé avec le Congo un accord général d'assistance, d'amitié et de coopération. Pour dire que l'évolution du Congo devrait se faire sous la surveillance de la Belgique. Aujourd'hui, je vois que la sécurité, le développement et la protection des civils cherchent, la Monique cherche à surveiller cette évolution. Et là, je me dis, c'est pas sérieux. Et puis, l'article 250 de la loi fondamentale de la Constitution à l'époque coloniale, cet article disposait que le fonctionnaire et agent magistral belge qui était au Congo devrait y rester en bénéficiant d'un traitement privilégié. Et là, par rapport à la question de la prorogation de la Monique, je vois que c'est une colonisation donc qui est en train de s'installer dans notre pays. Et leurs agents se comportent comme s'ils sont en promenade de la santé, comme je l'avais dit dans une émission passée. Et c'est ça, au fait, mon point de vue.
Merci beaucoup, Prince. Votre point de vue, vous pensez que la Monique, que vous dites qu'il a, il fait une promenade de santé, c'est que vous ne voyez pas le travail qui s'est fait, mais vous proposez pour vous qu'il fallait que les opérations militaires, tout comme la sécurité, soient supervisées par la Belgique. Hein. Vous pensez que ce n'était pas bien que ce soit entre les mains de la Monique, mais la Belgique, je pense bien, c'est une nation membre de l'Organisation des Nations Unies. Merci beaucoup, Prince, le colonel Jean-Paul Détrice. Vous avez suivi les trois premiers auditeurs, Étienne de Bukavu, John de Kananga, Prince d'Ouvira, chacun avec une particularité dans son intervention. Quelles sont vos réponses par rapport à leur préoccupation?
Bon, j'espère bien que j'ai pu retenir toutes les questions.
Oui, Étienne lui a parlé, elle a proposé un dialogue entre les Rwandais et entre les Ougandais, et il pense aussi qu'il serait mieux. Il pose la question de savoir pourquoi chaque fois quand le mandat de la Monique tend vers la fin, il y a tendance à avoir des troubles dans des différents coins qui font assez qu'on puisse proroger ce mandat, oui.
Oui, oui. Bon, c'est bien donc que j'ai retenu le principal. En effet, une opération militaire ne peut pas résoudre le problème des FDLR. Mais il faut en fait maintenir une pression militaire pour que les FDLR rentrent chez eux. Parce que, en fait, c'est clair, le Conseil de sécurité l'a dit plusieurs fois, les FDLR doivent quitter le Congo. Mais l'opération militaire ne vise pas à les tuer, plutôt à les inviter par force, s'ils ne font pas eux-mêmes. De rentrer. Il ne faut pas oublier que seulement l'année passée, à travers de l'opération Guinea 2, on a pu neutraliser, si vous me permettez ce mot, plus que 3000 éléments des FDLR. Donc, il y a des estimations que ça pourrait être presque 50% ou même plus des combattants. Et donc, il y a 1500 qui sont retournés volontairement par le processus des DD3R. Il y a plus que 1100 qui ont été tués, il y a d'autres qui ont été arrêtés. Donc, un bilan assez impressionnant. Mais cela oblige aussi toutes les partenaires impliqués dans ce problème de parler et de trouver une solution pacifique. Parce que il faut pas oublier les Congolais qui font partie des FDLR volontairement où ils étaient recrutés. On a fait une estimation l'année passée que moins que 10% des combattants des FDLR étaient des Congolais recrutés par force. Donc de ce côté-là, il faut trouver une solution pour les Congolais qui font partie de ce groupement. Donc dialogue politique absolument, autrement on ne pourra pas résoudre le problème. La solution militaire n'est pas la dernière solution. C'était une coïncidence que, effectivement, quand tout le monde discutait le renouvellement du mandat au Conseil de sécurité, il y a eu quelques troubles à l'Équateur. Mais là, on peut dire que la MONUC a tout de suite réagi. Elle a mis un dispositif assez important à disposition des autorités congolaises. Elle était très souple et je crois on a pu aider avec le maximum qu'on a déployé. À l'ouest, il ne faut pas oublier que 95% de nos moyens sont à l'est. Donc, on a fait un maximum et on espère beaucoup que ce conflit interethnique pourra être réglé d'une façon satisfaisante pour tout le monde. Donc, pas de trouble parce qu'on peut rester. Vous savez, la mission, la MONUC, elle est très coûteuse et tous ces moyens qu'on investit ici, on les aura peut-être besoin dans d'autres zones du monde. Mais tout ce qu'on veut ici, tous nos casques bleus qui sont sur le terrain. Là, je reviens peut-être aussi à la, à la question de Prince, qui dit que on est là.
Il se promène.
Pas du tout. Si vous avez eu la chance de voir comment nos casques bleus vivent et travaillent sur le terrain, notamment, par exemple, en Oriental et aussi à l'Équateur, donc avec le peu de moyens qu'ils opèrent sur le terrain, donc moi je tire mon chapeau de mes collègues militaires sur le terrain. Moi, j'ai une belle vie, si on peut le dire, comparant à tous ces observateurs militaires et aussi les gens des contingents qui opèrent chaque jour et nuit pour le bien-être, pour la sécurité des Congolais ici dans ce pays. Donc, vous savez, la MONUC, elle est là pour le bien-être de vous, Congolais et Congolaises. On est censé d'aider le gouvernement congolais et ensemble, en fait, on veut que le Congo va en avance. Et de ce côté-là, donc, les 5 mois, en effet,
ne sont pas suffisants pour accomplir le gros du travail.
Je dirais plutôt les 5 mois, c'est plutôt une prolongation technique qui donnera la chance à tous les partenaires, ça veut dire d'abord le gouvernement, après aussi les Nations Unies, de réfléchir sur le futur d'un prochain mandat. Parce que, comme vous l'avez aussi évoqué, après ces 5 mois, il suivra peut-être encore un mandat, une prolongation d'au moins 12 mois. Et les autorités congolaises voudraient plutôt que la mission se tourne dans une mission de stabilisation. Donc, l'aspect militaire sera plus en fait la grande priorité. Mais pour cela, donc, il faut faire des efforts avec les opérations militaires, il faut arriver effectivement à atteindre les buts qui ont été fixés, il faut stabiliser ces régions et après il faut reconstruire. Donc, mais tout cela se prendra du temps, donc les 5 mois ne donnera pas la paix totale, mais espérons que, au moins du point de vue stellaire, on arrive quand même à résoudre ou à atteindre les buts qui ont été fixés avec Amani Leo.
Merci beaucoup, colonel Jean-Paul Dutrich. On va prendre encore Guillaume qui est à Mahagi, Joël qui est à Mbandaka et Drancin qui est à Lubashi. Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Joël, c'est vrai.
Vous êtes à Mahagi, en province orientale. Hein. Nous parlons de la prorogation du mandat de la MONUC et bien sûr la priorité qui est axée sur la protection des civils. Vous êtes à Mahagi. Quelle est votre contribution, votre préoccupation par rapport à ce nouveau mandat, particulièrement hein, là où vous êtes à Mahagi? Quelles sont vos attentes?
Oui, mes attentes sont les vaches. Moi, j'aimerais demander la MONUC. Qu'est-ce que les affaires, par exemple, de ne pas, par exemple, avoir une vision claire concernant les mandats? Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on va dire que le mandat va expirer après 6 mois. Donc, après 6 mois, on augmente toujours et le mandat va expirer encore dans d'autres années. Qu'est-ce qui, par exemple, les affaires? Parce que vous savez très bien les problèmes du Congo. Vous parlez bien sûr de la situation militaire, la situation entre le Congo et l'Ouganda. Ce n'est pas maintenant une situation militaire qui va résoudre les solutions. Donc les problèmes restent au niveau des contacts de la diplomatie. Donc les gouvernements congolais avec les gouvernements rwandais devaient se réunir ensemble. Et puis c'est difficile aussi, c'est difficile maintenant pour la MONUC. Parce que quand certains zéros analystes aussi, la guerre du Congo a déjà changé de système, on a passé des guerres tribales jusqu'à maintenant aux guerres. Donc c'est difficile pour la MONUC d'entrer dans des combats pareils. Parce que les Congolais, si on fait bien ces analyses, auparavant, par exemple, ils faisaient là des guerres tribales, alors maintenant ils ont devenu une guerre idéologique. C'est difficile, c'est difficile pour la MONUC d'entrer dans des combats pareils. Il faudrait que la MONUC, par exemple, avance un bilan clair, qu'on va savoir que leur mandat va être sur la terre à terme moment. Parce que je sais bien sûr que la MONUC est les Nations Unies. Ce n'est pas la MONUC. Je parle des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est une organisation de coopération. Alors, c'est l'organisation de coopération est différente par rapport à l'organisation d'intégration qui concerne l'Union Européenne. Alors, les Nations Unies ne sont pas ce que la coopération s'est permis. Parce que la coopération, c'est quelque chose que tout que les deux côtés bénéficient. Donc c'est avec ça que nous ne pouvons pas avoir aussi un mandat clair concernant les départs de la Monique. Okay. Donc si vous dites comme ça, à tout moment, nous, partout, nous avons toujours des situations là difficiles. Nous avons toujours des guerres idéologiques. Ce n'est pas maintenant les tribus qui vont s'attaquer entre eux. Maintenant, nous avons des guerres idéologiques. Et c'est même d'écouter là partout. Selon les informations que vous publiez, vous allez voir que dans ces derniers temps, les guerres tribales sont déjà terminées. Alors, ça reste des guerres idéologiques. Des combats qui sont vraiment là.
On vous a suivi, Guillaume, on vous a suivi. Vous pensez qu'il fallait que la Monique définisse clairement son mandat par rapport au problème réel du Congo que la Monique connaît. Mais en attendant, vous soulevez aussi le problème que la Monique ne pourra pas trouver la solution au problème du Congo parce que c'est parti des guerres, des affrontements entre les ethnies, entre les tribus. Et aujourd'hui, c'est la guerre des idéologies. Ce qui veut dire que c'est la guerre au niveau des considérations politiques. Vous pensez que la Monique ne pourra pas trouver solution facilement. Merci, Guillaume, quand même, de ces concessions. Nous allons parler avec notre invité. Joël, vous êtes en Bandaka. Joël, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs de l'Est du pays.
On vous écoute, Joël, vous saluez les auditeurs de l'Est du pays, vous êtes un peu là, au nord. Joël, quelles sont vos considérations par rapport au mandat prorogé de la Monique jusqu'au 31 mai de cette année?
Je vais d'abord poser une question.
Allez-y.
La première question est de savoir qu'est-ce qui manque à l'État congolais de résoudre tous ces problèmes sans l'intervention de la Monique.
Et la deuxième question. Okay.
Le fait de toujours proroger le mandat de la Monique ne conduira pas ou soit ne va pas soumettre un autre pays à un mandat éternel.
Merci beaucoup Joël. Vous nous appelez de Mandaka. Deux questions. La première question est de savoir qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais pour mettre fin à ses propres problèmes sans inviter la MONUC ou bien sans l'intervention de la MONUC. Et vous avez peur que quand on va des prorogations, que les pays soient sous tutelle, vous avez dit que le pays reste définitivement sous mandat de la communauté internationale, bien de la MONUC bien sûr. Nous allons aussi prendre Donatien qui est à Lubumbashi, au Katanga. Donatien, bonjour.
Bonjour.
Donatien, vous avez un poste récepteur à côté de vous. Cela ne va pas permettre à ce que nous puissions bien dialoguer. Si vous pouvez arrêter le poste récepteur et suivre votre émission à travers le téléphone, ça peut aller comme ça, Donatien?
Ah oui. Moi, je me suis déjà éloigné de la poste.
Allez-y maintenant, donnez votre point de vue par rapport au problème de la prorogation du mandat de la Monique.
Ok. Le problème de la prorogation du mandat de la Monique. Moi, je vois envisager le retrait de la Monique aujourd'hui dans notre pays, c'est encore fort, puisque le problème n'est pas encore résolu. Il faut que la Monique reste ici, puisque tout Congolais nous estimons que la Monique reste ici. C'est parce qu'il y a une résolution. Bon, s'il y a résolution, c'est en partie résolu. Mais pourquoi envisager les Nations Unies, si elles vont envisager ça, elles se sont référées à quoi? L'insécurité est un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, que la Monique puisse être retirée dans 5 mois ou plus. Bon, pour moi, il fallait prolonger davantage le mandat de la Monique.
Merci beaucoup, Donatien Dalumbashi. Vous pensez que c'est encore trop tôt d'envisager le retrait de la MONUC, parce qu'il y a encore des problèmes, des poches d'insécurité. Il serait mieux d'ailleurs, vous pensez qu'il serait mieux de penser plus à proroger le mandat de la MONUC qu'à penser déjà au retrait des troupes de la MONUC. Nous allons aussi terminer avec des pôles pour ce moment, avant de donner la parole. Après, nous allons donner la parole à notre invité. Des pôles, vous êtes ici à Kinshasa. On vous écoute. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Oui, bonjour, colonel.
Allez-y, on vous écoute rapidement.
Je voudrais faire une proposition.
Ok.
Bon, pour moi, je voudrais que quand on récupère une partie du pays, laissez au moins quelques militaires là-bas qui doivent assurer la sécurité des populations. On a suivi, je crois, il y a deux jours, qu'une partie où on avait déjà repris et que les FDLR étaient déjà éloignés, mais après les retraits des troupes, il y a encore les FDLR qui sont rentrés pour faire des troubles et tuer des gens. Les gens qui mettent à la sont quand même des Congolais, non seulement des Congolais, mais pas des personnes qui ont droit à la vie. On doit vraiment assurer la sécurité. Quand on récupère une partie, même si on doit quitter, laisser quand même les troupes qui doivent gérer la sécurité de cette partie du pays. Comme ça, on doit bien évoluer. Quand on récupère une autre, faire la même chose. comme ça on ira débloquer un projet. Merci.
Merci beaucoup, Depol. Vous pensez qu'il faudrait plus rassurer la sécurité des zones qui sont conquises, n'est-ce pas, qui étaient dans les mains des FDLR quand les troupes de FARDC en appuyant bien sûr avec la MONUC le récupèrent. Il faudrait plus les sécuriser pour qu'ils ne puissent pas retomber dans les mains de FDLR. Merci à vous, hein, à Guillaume. Merci à Joël Donachien et vous, Depol, colonel Jean-Paul Dutrich. Vous avez suivi les quatre auditeurs. Hein. Guillaume Demag, lui, il pense que le problème du Congo devient encore trop compliqué parce que c'est la guerre idéologique avec des politiciens qui sont dedans, ce qui complique la pêche de la MONUC. Il y a Jean-Joël Dembandaka, lui, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui manque au Congo pour régler leurs problèmes sans l'intervention de la MONUC, et il a peur qu'on ait des prorogations. Et puis Donatien Delbumbashi, lui, il encourage le fait que la MONUC doit encore rester parce qu'il y a des choses à régler. Et Depol, lui, pose le problème de la protection des zones qui étaient entre les mains des FDLR après les avoir conquis, colonel Jean-Paul Dutrich.
Bon, peut-être commençons avec Depol à Kinshasa. En effet, un but de l'opération Amandilio est de sécuriser les zones qui sont maintenant libérées. Ce sera un grand défi parce que ça demandera beaucoup de troupes pour faire ça. Et comme vous le savez, le territoire est très vaste. Les FDLR connaissent bien le terrain. Donc, en effet, il faut absolument arriver à maintenir. Donc, c'est pourquoi si on peut abroger un peu le but de l'opération Manileo, c'est de nettoyer, de maintenir et de construire. C'est ça. Donc, de ce côté-là, en effet, on doit tout faire. Et aussi, dans notre planification, qui a débuté déjà au mois de décembre, tout est bien prévu et actuellement, les troupes des FARDC et de la MONUC sont en train de se déployer et les vraies opérations vont prochainement commencer. En ce qui concerne le retrait, donc tout le monde parle en fait pas d'un retrait immédiat, mais plutôt d'un retrait progressif. Déjà, si vous pensez à ces 20 000 militaires qui sont déployés surtout à l'est du pays, ils ne pourront pas partir même techniquement d'un jour à l'autre. Donc tout cela, il y a énormément des avions, il y a des matériels, il y a des chars, il y a tout ça. Ça prendra donc son temps. Mais il ne faut pas oublier que les deux partenaires qui sont concernés, ça veut dire le gouvernement congolais et la MONUC, mais plutôt les Nations Unies, ils se sont mis d'accord de se fixer des buts. Ils vont dire, bon, la MONUC pourra se retirer si tel et tel but est atteint. Ça veut dire, les FARDC sont en position de reprendre en fait les fonctions principales d'une armée. Donc ça veut dire ils ont reçu une formation suffisante, n'est-ce pas? Ils sont bien encadrés, ils ont les casernes, ou bien d'autres benchmarks, si on peut dire ça en anglais, qui doivent être atteints avant que la MONUC quitte. Cela met de la pression sur les deux côtés. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça demandera des obligations des deux côtés de tout faire dans un temps bien défini, d'arriver à atteindre ses buts. Donc, c'est une bonne chose. Je crois que c'est vraiment un bon partenariat si on peut continuer comme ça. Donc, il n'y a pas question que la MONUC peut rester ici éternellement, pas du tout. Donc, je remercie aussi Donatien qui semble qu'il a la confiance à notre travail. Peut-être il a pu observer nos casques bleus et nos observateurs sur le terrain. Et je pense aussi que la population qui vit tout près de nos collègues sur le terrain, ils ont peut-être une autre image que les Congolais qui vivent à Kinshasa, qui voyaient peut-être que circuler les voitures blanches, les gens qui sont au restaurant, etc., etc. Mais cela représente peut-être 2% de la MONUC. Tous nos collègues sont sur le terrain, à l'est, dans des conditions de vie très difficiles. Et c'est eux qui se battent, et c'est eux qui contribuent effectivement à contribuer activement aux opérations militaires et apporter une stabilité. Et sans cette stabilité, on ne pourra pas reconstruire le pays.
Il y avait Joël de Mandaka qui a demandé, bon, c'est une question, bien sûr, il a demandé qu'est-ce qui manque aux Congolais. Peut-être que c'est une question qui pouvait être répondue par les Congolais eux-mêmes. Mais il y a Guillaume Demag qui a posé un problème sérieux. Il dit que le problème du Congo est aussi la guerre idéologique entre les politiciens. Est-ce que cela ne va pas aussi compliquer la tâche à la Monique? La Monique peut avancer, mais quand entre les politiciens, cette guerre idéologique qui est partie des affrontements entre les tribus, maintenant qui devient un problème des politiques, ça peut aussi compliquer la tâche de la Monique.
Oui, ça peut compliquer, mais vous savez, la Monique a aussi une partie civile, état de droit et d'autres actions, affaires civiles, affaires politiques, et tous ces gens-là peuvent aider, en fait, si le gouvernement le souhaite, peuvent aider à faciliter tous ces conflits internes, à donner un appui. Comment on peut gérer ça quand on parle que beaucoup de conflits interethniques, il y a tout un une dynamique. Et je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer le potentiel civil de la MONUC, même si le potentiel militaire est beaucoup plus nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux, mais les civils, eux aussi, ils ont beaucoup d'expérience. Les Nations Unies, comme organisation, a beaucoup d'expérience dans la prévention des conflits, aussi, donc, dès que le conflit est une fois géré, résolu, de la phase après conflit. Donc, de ce côté, il faut en profiter de tout le savoir énorme des Nations Unies qui a déjà contribué dans beaucoup de zones du monde à gérer les conflits.
Oui, le colonel Jean-Paul Détriche, avant de passer la parole à Ndeke qui nous appelle de Kinshasa, Malonga qui est dans les Bandundu et Salvador qui est à Kalemie, vous avez parlé que les deux partenaires, vous avez dit que les deux partenaires, c'est le gouvernement congolais et la MONUC pourront fixer les objectifs. C'est le retrait, il va aussi des objectifs fixés. Mais s'il faudrait parler aujourd'hui des capacités de faire baisser depuis presque 10 ans, est-ce que la MONUC a dû quand même faire un travail de formation pour relever le niveau des FARDC? Est-ce que vous évaluez que ces niveaux par rapport au moment où la MONUC a été déployée et pendant et après ces 10 ans, est-ce que le travail que la MONUC a fait aussi dans la formation, vous pensez que le niveau est assez relevé, qu'un jour on peut enfin envisager le départ de la MONUC pour laisser la responsabilité aux FARDC?
Bon, on peut dire la formation en France qui a seulement commencé en 2007, si je ne me trompe pas. Donc, on a formé les gens à Nialeke, à Lubérizi, je crois une vingtaine de bataillons, avec les opérations Kimia 2 surtout, tout ce processus s'est arrêté, et maintenant on espère de reprendre cette phase de formation à partir de d'ici. Donc en fait la planification est faite, les instructeurs tanzaniens sont prêts de venir, il y a des constructions qui se font dans les camps, n'est-ce pas? Donc et pour cela, on a transporté plus que 1000 ex-combattants qui sont maintenant en Lubérizi dans un autre camp parce qu'on veut avoir de la place donc, pour la formation. Il faut dire, les FARDC, ce sont en fait une armée en transition. Il n'y a jamais eu le calme. Donc les militaires, en fait, ils ont dû mener des opérations, ils ont dû s'organiser eux-mêmes avec leur famille, qui est une chose qui est très très difficile, avec les conditions de vie, très difficiles. Et en même temps, ils ont pu digérer une intégration de plus, je pense, que de 15 000 anciens combattants. Donc, même pour une armée dans un autre pays, ce sera un défi énorme. Et donc, de ce côté-là, on ne peut pas seulement critiquer les FARDC. Il faut effectivement aussi accepter qu'ils ont parcouru des phases très difficiles. Ils ont essayé de faire d'arriver donc à être une armée. Et donc, il faut leur donner du temps. Mais il faut de la bonne volonté. Il faut des commandants bien qualifiés, professionnels. Et finalement, il y aura un processus de sélection qui va effectivement décider qui pourra encore faire partie d'une armée et qui devra plutôt se retirer et prendre une autre fonction.
Et cela, c'est en collaboration, bien sûr, avec entre les deux partenaires, la MONUC et le gouvernement congolais.
En effet.
Vous êtes jeune et branché? Vous êtes très passionné de tout connaître? Alors, faites le plein d'énergie pour votre émission Total Énergie. Rejoignez d'autres jeux sur Radio Capi tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 16h. Total Énergie, c'est l'énergie totale. Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Radio Capi, parole aux auditeurs, se penche aujourd'hui sur la prorogation du mandat de la MONUC. Comme je l'ai dit au début de cette émission, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1906, adoptée le 23 décembre 2009, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la MONUC de 5 mois, soit jusqu'au 31 mai 2010, avec intention de proroger, bien sûr, la présence de la MONUC en RDC pour 12 mois. Quelles sont vos attentes? Quelle lecture faites-vous de la prorogation de ce nouveau mandat de la MONUC, bien sûr, essentiellement consacré à la protection des civils? Nous recevons dans ce studio le colonel Jean-Paul Dietrich, porte-parole militaire de la MONUC, avec qui nous sommes en train d'en parler. Et vous aussi, auditeurs, vous êtes très très nombreux à nous avoir appelés, à nous écrire, hein, aussi comme Donatien Baka Dibanda de Lubumbashi, d'ailleurs, qui venait d'intervenir tout de suite, qui demandait, qui pensait que c'était trop tôt de pouvoir envisager le retrait de la MONUC. Mais il y a aussi Sosten qui nous a écrit de Kisangani. Pour lui, il pense que le problème de Dungu, par exemple, c'est une question qu'il pose à notre invité. Il dit que le problème de Dungu avec les LRA ont commencé quand on a planifié des opérations militaires avant 2008. Les LRA, pour lui, il pense que les LRA vaguaient à leurs activités, ils ne dérangeaient pas la population, mais quand on a déclenché les opérations militaires, c'est alors qu'ils sont devenus très, très dangereux et qu'ils ont commencé à s'attaquer aux populations civiles. Il se demande qu'est-ce que la MONUC prévoit, que faut-il faire aujourd'hui pour les neutraliser totalement. Mais nous avons en ligne Ndeke qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin de l'émission sur la prorogation du mandat de la MONUC. S'il vous a été demandé, vous, auditeur de Radio Capi, de donner quelques propositions par rapport au travail que la MONUC doit faire pour le reste de son mandat, Ndeke, quelle est votre lecture et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui?
Bon, je commence par dire que toute la population congolaise doit dire merci au Conseil de sécurité pour avoir prolongé le mandat de la MONUC. Et nous pensons que ce énième prolongement ne doit pas nous laisser dormir sur nos lauriers. Ça doit nous interpeller et nous pousser à prendre conscience et à mettre de l'ordre dans notre petite boutique. Parce que la situation qui se passe au Congo, c'est comme s'il y avait un bruit dans le ménage. Si vous voulez que les voisins qui sont venus intervenir puissent vous laisser tranquille et gérer votre situation telle que vous le voulez, c'est question de vous attendre, hommes et femmes, et le problème est réglé en foyer, et les voisins peuvent partir. Donc, ce débat de dire que est-ce que la MONUC doit continuer, la MONUC doit rester, tout dépend des séries que nous voulons mettre dans notre pays. Et je crois qu'il y a un effort à faire au niveau du gouvernement sur le plan politique, mais également un effort à faire sur le plan militaire. Toute cette formation que la MONUC est tentée de donner dans sa philosophie, c'est que cette formation puisse aboutir sur un retrait de la MONUC et comme ça que les gens formés puissent assurer la sécurité de notre pays. Mais la formation seule ne suffit pas parce que ces personnes-là formées doivent être mises dans les conditions matérielles et financières qui peuvent leur permettre de bien travailler. Or, on leur assure la formation. Dès qu'ils terminent, ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas les moyens matériels pour exécuter ce qu'ils ont suivi comme formation. En conséquence, un petit groupe peut s'organiser, promettre simplement qu'à la fin de chaque mois, si vous êtes enrôlé dans mon mouvement, je peux vous payer 100 dollars. Alors, pour rien, 100 dollars, vous voyez un militaire qui a été bien formé par la MONUC qui devait servir pour la nation, et des taxes de l'armée pour aller s'ingérer dans les petits groupes qui va s'aimer encore toujours le trou de le temps. Donc, je suis sur le territoire du Congo. Donc, moi, je pense que le fait qu'on a prolongé le mandat de la MONUC, c'est une bonne chose, mais ça doit nous pousser, nous, Congolais, à mettre rapidement des séries dans le travail que nous faisons, un effort à faire au niveau du gouvernement, un effort à faire au côté également du militaire, de manière à ce que toutes les conditions soient réunies pour que nous mettions de l'ordre dans notre pays, parce qu'elle ne peut bien assurer la sécurité du Congo que les militaires congolais. C'est ça ma vision des choses.
Merci beaucoup, Ndeke. Vous pensez que vous encouragez la décision du Conseil de sécurité, mais vous évoquez aussi ce qui est très important, le fait que la MONUC déploie le moyen pour former les militaires FARDC, mais il serait aussi mieux que la volonté politique du côté congolais soit manifeste pour encadrer ces militaires et surtout sur le plan matériel, les conditions salariales, les conditions de vie pour que ces militaires ne puissent pas retomber entre les mains de groupes armés où ça est trouvé encore dans la forêt. Merci beaucoup, Ndeke, de nous avoir appelé de Kinshasa. Dans la province de Bandundu, Malonga nous appelle. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Est-ce que vous pensez, comme Ndeke, que c'est une bonne chose, hein, le fait qu'on ait prorogé le mandat de la MONUC, et aussi l'interpellation de Ndeke par rapport à l'engagement, hein, des politiques des Congolais, hein, par rapport à cette prorogation, hein?
Bon, selon moi, en tout cas, c'est-à-dire, de tout ce que mes prédécesseurs viennent de dire déjà, en tout cas, ça suffit. Mais moi, je peux vous mentir seulement concernant cette prolongation du mandat de la MONUC. Je vois qu'il y a l'avantage seulement d'un seul côté. Ce que je vois ici, certains, la MONUC s'intéresse souvent de l'administration. Or, ce que la population entendait de la MONUC, c'est la fin des hostilités. Donc, à l'est du Congo, ou bien au Congo entier, il n'y a plus encore de troubles armés. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis que la MONUC est au Congo, il y a 10 à 15 jours, mais toujours des hostilités. Et il y a d'autres groupes armés qui naissent. Les Ingélés, ici au Bas-Congo, chez nous, ici à Kaemba. Même, vous ne voulez pas informer cela. Mais à Kaemba, ici, en tout cas, la population souffre là-bas. Bon, à l'est, là, on n'en parle rien. Comment est-ce que la monique sera toujours prolongée au moment où l'insécurité populaire continue à persister? Or, nous entendions à la monique d'une aide pour calmer toutes sortes de bruits à l'est du populaire. Mais aujourd'hui, on voit que l'administration de la monique dépasse encore l'administration du pouvoir public. Qui s'intéresse à engager le personnel qui sont toujours au bureau et ils s'intéressent à former les organismes, les séminaires, les formations au lieu d'abord de calmer la situation à l'est. En tout cas, c'est là où la tension de la population, en tout cas, tâche.
Merci.
Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas contents de ce que nos compatriotes sont là-bas dans une vie vraiment misérable. Nous les connaissons.
Merci beaucoup, Malouda.
Je ne connais pas mon père. Mais il faut songer à la mission. Il faut bien définir la mission que nous sommes au Congo pour terminer les activités au Congo. Mais jusqu'à présent, vraiment, nous regrettons beaucoup que la Monique n'arrive pas à atteindre sa mission.
Merci beaucoup, Malonga. Vous nous appelez de Bandundu, dans la province de Bandundu, bien sûr. Hein. Vous pensez, vous soutenez la prorogation du mandat, mais vous pensez qu'il serait mieux de définir concrètement la mission, ce que la MONUC doit faire pour mettre fin complètement aux hostilités. Mais vous évoquez aussi l'admission. Vous pensez que la MONUC a tellement une lourde administration. Il y a beaucoup de bureaux. Ils engagent beaucoup de gens dans la bureaucratie, dans l'administration, qui est dans les opérations sur terrain. Salvador, vous êtes à Kalemi. Salvador, bonjour.
Bonjour,
on vous écoute, Salvador.
Oui, selon moi, la prolongation du mandat de la MONUC est une bonne initiative. Mais nous nous posons une question. Pour la première fois, l'ONU avait déployé des troupes d'intervention pendant la guerre de sécession. En quelques semaines, les armées de l'ONU mirent fin aux opérations militaires belges. C'est plus facile. Ça fait au moins 10 ans qu'ils n'arrivent pas à rétablir la paix. Et pourtant, ils disent que c'est la première grande opération de maintien de la paix jamais déployée au monde par l'ONU. Pourquoi ils ne parviennent pas à mettre fin au désordre pendant 10 ans?
Merci beaucoup, Salvador. Vous pensez que la MONUC a mis vraiment beaucoup de temps, qu'on ne parvient pas à mettre fin au désordre. Victor, vous êtes à Kananga. Bonjour, Victor.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute. Est-ce que vous êtes du même avis de Salvador, qui est académique, qui pense que la MONUC a fait mis beaucoup de temps, il ne parvient pas à mettre fin à la situation, comme ça s'est fait dans les années 60, ou bien vous pensez, vous avez un avis contraire?
Ah oui, moi je vois que depuis que la MONUC est sur notre étendue de la République, aucune réalité n'est cette jusque-là. Vous parlez de la sécurité, mais je ne sais pas ce que vous pensez de la sécurité. Mais partout, sur l'étendue de la République, nous sommes toujours dans l'insécurité notoire. L'insécurité, je déclare que l'insécurité est notoire.
Victor,
pourquoi la présence de...
Victor,
oui,
vous pensez à Kananga, vous êtes en insécurité, c'est ça?
Oui, nous sommes dans l'insécurité parce qu'il n'y a pas la sécurité civile ici. Il n'y a pas la sécurité civile, nous sommes tous dans l'insécurité.
Qui sont à la base de l'insécurité à Kananga, Victor?
Je vois que, de ma part, Monique ne s'est jamais réalisé.
Victor, s'il vous plaît, Victor, vous êtes à Kananga, je vous ai demandé qui sont à la base de l'insécurité à Kananga, parce que vous dites qu'il y a l'insécurité partout. Qui sont à la base de l'insécurité à Kananga?
Je peux illustrer l'exemple. Pendant la nuit est grande, dès qu'il est 21h ici, vous ne pouvez pas marcher. Dès que vous marchez, vous êtes entre les mains des milices. Ici, les patriotes vous arrêtent. Vous devez capter. C'est ça ce qui montre que l'insécurité est en train de se dérouler jusqu'à présent.
Ah oui, vous pensez qu'à Kananga, en fait, pour vous protéger contre les patrouilleurs, la MONUC devait en principe travailler, circuler dans les rues, pour vous protéger contre les patrouilleurs, c'est ça?
Non, ils doivent faire de la façon que nous ne soyons pas, entre ces dilemmes qui sont devant nous.
Merci beaucoup, Victor. Merci Victor de nous avoir appelé des Kananga au Cap Occidental, au centre du pays. Serge, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Serge, par rapport à la prolongation du mandat de la MONUC. Vous êtes à Bounia. Qu'est-ce que vous attendez, hein? Quel est le sujet de cette prolongation?
Oui, en fait, la prolongation de la MONUC pour l'enfant, c'est un moment, je dirais que, comme l'a dit, l'invité du jeu, c'est un prolongement technique. C'est une bonne chose parce que ça va prendre les poids au-dessus de votre autorité de la MONUC. Mais nous répétons une chose de la part de ce que ces agents au milieu sont en train de faire sur le terrain, parce qu'ils contribuent grandement à une réintégration de l'armée et aussi à la réforme de la sécurité et aussi de la police. C'est une contribution assez énorme que nous sommes en train de jeter de faire face à eux. Mais cependant, il y a aussi des raisons marquées qui sont en train de faire. Il est là aussi un frontalier. Et aujourd'hui, et le gouvernement, et aussi les gens onusiens devaient aussi travailler de concert pour pallier à cette situation, d'autant plus que ça, ce sont des situations qui sont assez que notre pays est en train de marquer d'énormes ressources potentielles que notre pays regorge.
Merci beaucoup, Serge. On a des problèmes de ligne avec vous, à votre qualité, mais dis-moi, on a suivi quand même, vous encouragez la prolongation, vous soutenez l'idée de l'inviter, que c'est une prolongation technique, hein, vous encouragez le travail qui est fait, mais vous pensez qu'il serait aussi mieux qu'on consacre les efforts sur les frontières, parce que vous pensez qu'il y a beaucoup de fuites des matières premières à travers les frontières de la RDC. Mais votre ligne a des problèmes, mais merci quand même, Serge, de nous avoir appelé des Bounia en province orientale. Colonel Jean-Paul Détris, vous avez suivi hein, le groupe de nos auditeurs, Ndeke de Kim Kassa, Malonga de Bandundu, qui lui a évoqué le problème de la bureaucratie, hein, de l'administration qui semble être lourde, que vous privilégiez plus l'administration et la bureaucratie que le travail sur le terrain, par exemple, à l'Est. Il y a aussi Victor de Kananga qui parle de l'insécurité, Serge Tebouna, qui encourage, mais qui évoque le problème de frontières, du travail qui doit être fait au niveau des frontières.
Bon, en effet, c'est vrai, la formation militaire ne suffit pas. Il faut effectivement donner aux militaires des bonnes conditions de vie. Et vous savez, là, quand j'ai pu suivre la dernière cérémonie, après la clôture de l'Ubridi, on a vu défiler tous ces nouveaux intégrés et par décès des anciens papas, des jeunes soldats. Et on était très émus parce qu'on s'est dit, bon, maintenant, vraiment, ils ont appris quelques techniques pendant 3 mois sous la tuture des Nations Unies, mais quel sera leur destin quand ils vont rentrer? Donc, effectivement, là aussi, il faut faire énormément. Il faut les payer, il faut bien les intégrer, les intégrer. Et surtout, il faut leur donner des conditions de vie acceptables. Et à ce sujet, dans plusieurs régions déjà, dans le cadre du programme STAREC, on construit des casernes pour les militaires. Donc là, un meilleur futur est quand même en vue. Ça, c'est vrai. Bon, il faut non plus pas oublier que la MONUC, c'est une mission militaire, ça c'est vrai, mais il y a quand même un élément civil très important, mais nos moyens sont surtout déployés sur le terrain. L'administration fait, comme dans chaque organisation, une certaine partie, mais si vous parlez des employés qui sont engagés, il ne faut pas oublier que la MONUC a engagé beaucoup de Congolais. Donc on vous donne votre pain quotidien à travers des fonctions intéressantes près des Nations Unies. Une chose aussi, il ne faut pas oublier que la MONUC, elle est là pour supporter, pour aider pour soutenir les autorités de ce pays. Mais jamais on sera en mesure de nous substituer. Donc ce sont les Congolais, c'est le gouvernement congolais qui doit protéger ces populations. Et aussi, je dirais, les Congolais doivent prendre les choses en main. Dans leur quartier, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur commune et dans leur province. Peut-être j'ai un peu sauté toutes les instances, il y a encore des districts et d'autres choses.
C'est déjà beau.
Oui, c'est déjà beau. Vous devez prendre vos choses en main, activez-vous par la société civile. Et donc, c'est seulement vous que vous pouvez gérer en long terme votre pays. Nous, on est là à vous aider. Le Conseil de sécurité nous dit, bon, où on se déplaît, quelles sont les priorités. Malheureusement, on ne peut pas être partout, on a des moyens très limité, mais on fait notre mieux. On fait notre mieux.
Nous donnons la parole au dernier auditeur. Hein, juste, vous avez 30 secondes. Jean, vous êtes à Lubumbashi. Jean, bonjour.
Bonjour, bonjour, Radio Kati.
On termine l'émission.
Pour ce genre d'émission.
Oui.
Donc, en 20 secondes, je peux vous dire ceci. Je crois que l'invité vient de tout dire. L'essentiel, maintenant, ayant stabilisé la situation, est de nous apprendre à pêcher pour ne pas continuellement nous donner du poisson. Donc, que la MONUC, la communauté internationale, mette l'accent sur la formation d'une armée véritablement républicaine congolaise. Voilà. Parce que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'éternel problème qui est à la base de tous ces désordres. Merci.
Merci beaucoup, Jean-Colonel Jean-Paul Détrich. Vous avez juste 30 secondes pour terminer cette émission, conclure avec les auditeurs, parce que nous sommes à la fin.
Bon, merci beaucoup d'avoir la chance de participer à cette émission. On peut conclure que je crois la plus grande partie des Congolais sont contents avec notre présence. Ils attendent encore plus de nous. Nous, on fait notre mieux, mais nous, on est partenaires du gouvernement, donc on ne peut pas substituer. Et la dernière chose, c'est vraiment que vous, Congolais, Congolaises, prenez les choses en main et travaillez dur pour un meilleur futur.
Merci beaucoup, colonel Jean-Paul Détrich. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes porte-parole militaire de la MONUC. Merci d'avoir accepté de participer avec les auditeurs à cette émission. Et merci à tous les auditeurs qui sont intervenus et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Parole aux auditeurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain vendredi pour une autre aventure consacrée cette fois à la commercialisation, circulation, interdiction, consommation des boissons alcooliques appelées communément Kinshasa Supunatolo. Vous savez, ici à Kinshasa, 5 bourgmestres de la ville ont été accusés de ne pas combattre la commercialisation de ces produits, ont été suspendus de leurs fonctions par le gouvernement provincial. Quelle est la situation dans votre milieu et quelles mesures prendre pour combattre la circulation, la commercialisation et la consommation des boissons alcooliques qui sont plus consommés par la jeunesse? Réagissez à pa@radiookapi.net. Merci à Arlette Mbouy, Dieudonné Yangassa, Ben Kabamba et toutes les petites paroles aux auditeurs qui m'ont aidé à présenter cette émission. Merci et au revoir à tous.